Bon bec. Le podcast dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bon bec. Bon bec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose depuis 2019 d'explorer l'univers de la flûte à bec. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis flûtière. Et en plus de fabriquer artisanalement des flûtes à bec, je vous ouvre les portes de leur univers à 360 degrés. Bon bec, c'est votre rendez-vous régulier, chaque premier et troisième dimanche du mois, pour partir à la rencontre de notre instrument, de ses secrets, de ses fabricants, de ses interprètes, de ses scientifiques, de ses admiratrices et admirateurs, tout ça au travers d'épisodes consacrés à des sujets clés ou à des conversations inspirantes. Vous pouvez écouter Bon bec sur vos plateformes de podcast préférées, sur www.bonbec.fr et sur YouTube, et retrouver aussi des pistes d'exploration dans les notes de chaque épisode. Alors que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Bonjour chères auditrices et auditeurs de Bon bec, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode Alphabec, l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et pour m'accompagner dans cet épisode, dont vous avez vu l'intitulé « G » comme geste, eh bien j'ai le plaisir de recevoir, pour la première fois sur le podcast d'ailleurs, des professionnels de santé. Et je dis bien des professionnels de santé car elles sont deux. Céline Buissou et Isaure Ponviane sont toutes les deux ergothérapeutes et dans cette profession, elles se sont spécialisées dans l'accompagnement des musiciens. Alors bien sûr, au cours de l'épisode, elles vont se présenter, elles vont nous expliquer plus en détail leur domaine et leur champ d'action avec l'ergothérapie, qui est une discipline plutôt méconnue du grand public. Et puis, nous allons nous concentrer sur tout ce qui caractérise et affecte le geste, les gestes spécifiques à la pratique instrumentale. J'avais environ 1000 questions à leur poser, mais on a réussi à s'organiser pour diviser l'épisode en trois grandes parties. Alors tout d'abord, on va parler du vocabulaire et des pathologies spécifiques aux musiciens. Est-ce qu'il y a des pathologies spécifiques justement ? Est-ce qu'il y a des instruments qui sont plus à risque que d'autres ? Quels sont les troubles qu'on est susceptible de développer durant l'apprentissage et la pratique ? Et comment les éviter ? Dans une deuxième partie, on s'intéressera aux mythes et aux on-dit autour notamment de la main du musicien, du geste ou encore de l'apprentissage qui devrait se faire dans la douleur. Je leur ai posé plein de questions à ce sujet et vous verrez, leurs réponses sont absolument passionnantes. Et dans une dernière partie, on s'attachera plus spécifiquement à la flûte à bec et on répondra à quatre questions d'auditeurs et d'auditrices. Alors j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Je remercie encore Isaure et Céline pour leur précieux et leur passionnant concours. Très bonne écoute et je vous retrouve pour la conclusion. Alors bonjour Céline et bonjour Isaure.
Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode de Bon bec.
Ben merci à toi pour ton
invitation.
Et je suis très heureuse de vous avoir parce que c'est la première fois qu'on va parler de la santé des musiciens et des flûtistes sur le podcast. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voudrais bien vous demander de vous présenter chacune en quelques mots. Et puis après, on va y revenir de nous présenter un peu votre discipline, l'ergothérapie.
Alors, Isaure Lavergne pour musicienne, Isaure Ponviane pour l'ergothérapie. Donc, je joue la flûte à bec, les bassons anciens. J'ai fait mes études musicales au CNSM de Lyon. Actuellement, donc, je suis principalement concertiste. J'enseigne aussi en cours particulier à Lyon, à l'occasion de stages. Et j'ai terminé en juin 2023, donc tout récemment, la formation au diplôme d'état d'ergothérapeute à Lyon aussi, que j'ai choisi d'exercer de préférence pour les musiciens. À l'occasion de stage, j'ai eu la chance de rencontrer Céline, qui a, voilà, cette rencontre a un petit peu orienté mon choix professionnel de l'ergothérapie.
Mm-hmm. Céline.
Et Céline Buissou, donc je suis ergothérapeute, où je pratique en Haute-Savoie, donc à côté du lac Léman et de la Suisse. Et j'ai une partie donc cabinet à Annemassé à Thonon où je reçois des patients pour de la rééducation, de la prévention. Et effectivement, j'ai aussi une partie où j'interviens également dans des établissements d'apprentissage ou dans des opéras ou conservatoires. Et une autre partie de ma pratique consiste à faire de la recherche, donc de mener des projets de recherche, de pouvoir essayer de répondre à quelques questions que je me pose et dont les patients se posent aussi au quotidien.
Ok, merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que c'est l'ergothérapie? Qu'est-ce qui caractérise l'ergothérapie parmi les autres professions de santé qu'on connaît peut-être davantage?
Alors moi, je dirais que l'ergothérapie a de spécifique qu'elle essaye de comprendre le fonctionnement d'une personne par rapport à ce qui lui est vraiment propre. Donc l'ergothérapie s'attache à la santé physique en premier lieu, on pourrait dire, mais aussi la santé mentale, parce qu'on va toujours se demander si ce que fait la personne, ça a du sens pour elle. Qu'est-ce qui est important pour elle en termes de valeurs et de choix de vie? Et donc, on va travailler en collaboration avec la personne qui vient nous voir pour essayer de rétablir le meilleur équilibre possible entre sa santé et ses activités, en tenant compte de tous les paramètres de l'environnement humain, matériel, de ses propres paramètres, à la fois les forces et les faiblesses, pour vraiment proposer un accompagnement le plus spécifique possible. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Céline.
Oui, complètement. Moi, j'ai tendance à essayer de résumer la pratique à ce que la personne puisse faire toutes les activités qu'elle veut de la manière dont elle le veut. Et donc, quand il va y avoir un problème quelconque, quelle que soit la difficulté de la personne, qu'on puisse soit modifier quelque chose, soit adapter l'environnement ou sa pratique pour qu'elle puisse continuer à pouvoir exercer tout ce qu'elle a envie d'exercer comme elle le veut.
Mmh. Alors là, aujourd'hui, on parle ensemble de l'ergothérapie pour les musiciens, pour les musiciennes. Est-ce qu'il y a Alors, je ne connais pas bien les termes, on pourra aussi parler de ça, des douleurs ou des pathologies qui sont spécifiques aux musiciens, qui sont liées à leur pratique. Et quelles sont ces douleurs ou ces gènes voilà. Déjà, comment ça s'appelle tout ça? Qu'est-ce qu'on peut avoir?
Alors, on sait que le musicien va avoir des pathologies qui vont être spécifiques à sa pratique. Et on sait qu'il y a à peu près 80% des musiciens qui ont ou qui auront une pathologie à cause de leur pratique.
Et, excuse-moi, oui. Quand est-ce qu'on parle de gêne, de douleur ou de pathologie? Est-ce que c'est une gradation?
En général, dans les études, le critère, c'est souvent soit qu'il consulte un professionnel, soit qu'il l'estime en fait comme diminution de leur pratique. En général, c'est plus comme ça. Après, effectivement, on pourrait, nous, avec nos termes plutôt médicaux, pouvoir définir ça. Mais en général, dans les études, c'est plutôt, est-ce que c'est souvent des auto-questionnaires. Donc, est-ce que vous avez mal ou est-ce que vous avez mal? Est-ce que ça vous gêne et à quel point ça vous gêne dans votre pratique? C'est un petit peu comme ça que c'est exposé dans la plupart des études.
Ok. Donc, excuse-moi, je t'ai interrompu, on était sur les pathologies.
Oui, donc c'est très fréquent que des musiciens souffrent à cause de leur pratique. Et on sait qu'il y a trois grands types de pathologies, en tout cas ce qui est recensé. Et aujourd'hui, en fait, les études sont vraiment en train de s'ouvrir et d'explorer d'autres pistes. Donc, je pense que ce qu'on va évoquer là va être très vite réducteur, je pense, dans les années à venir. Mais les trois grandes pathologie du musicien va être tout ce qui est TMS, donc trouble musculo-squelettique, ce qui est lié aux muscles, à l'appareil locomoteur, donc les os, les ligaments, les tendons, les muscles.
Et par exemple, ça, est-ce que tu peux donner un exemple?
D'accord. Une tendinite, c'est un TMS. Une TMS. Voilà, tout ce qui va être lié aux muscles, aux tendons. Donc ça, c'est la plus grosse partie, autour de 60-65% de TMS. Donc, c'est vraiment notre lot quotidien. Il va y avoir après ce qu'on appelle des syndromes canalaires. C'est un nom un peu barbare pour dire qu'il y a un nerf qui est bloqué à un endroit du corps. Typiquement le canal carpien. Donc ça, c'est vraiment la deuxième pathologie la plus fréquente. Et la dernière grande catégorie, ça va être la dystonie de fonction. Et c'est souvent un terme que les musiciens connaissent, en tout cas de nom. Ce qui est étonnant parce que c'est une maladie qui est très rare, en fait. C'est une maladie qui est quasiment inexistante dans la population générale et chez les musiciens qui reste très rare. Mais la différence, c'est que chez les musiciens, elle est beaucoup plus fréquente que dans la population générale. Donc c'est pour ça qu'on la connaît bien dans le milieu de la musique, en tout cas au moins le terme, sans savoir exactement la définir. Mais oui, au moins, c'est quelque chose qu'on connaît, en tout cas de nom.
J'allais te dire, alors comment ça se traduit?
Ça se traduit par des tremblements, tout simplement, mais des tremblements non douloureux. L'ancien nom de la dystonie, c'est la crampe de l'écrivain, à l'époque où les gens écrivaient beaucoup à la plume et puis après au stylo. Et en fait, ça entraînait beaucoup de douleurs au niveau de la main, parce que ils écrivaient beaucoup et souvent ils serraient un peu le stylo ou le crayon. Et ça entraînait comme ça des tremblements, mais non douloureux. Et c'est ça la différence entre une crampe et la dystonie, c'est que la crampe va être douloureuse, au contraire de la dystonie qui est invalidante au plus haut point, mais qui n'est pas douloureuse.
Mmh. Et la crampe va probablement se dissiper alors que la dystonie va être sur la durée.
Et la crampe est vraiment éphémère et pas grave, alors que la dystonie est très grave.
D'accord.
En fait, c'est une maladie rare, mais très grave. Mais c'est une maladie neurologique. Donc, c'est vraiment une modification du cerveau qui fait qu'on n'arrive plus à avoir la commande des doigts, parce que c'est souvent au niveau des doigts ou des lèvres chez les instrumentistes avant, qu'il y a vraiment un écart entre ce qu'on souhaite faire, le geste qu'on souhaite faire, et la manière dont il est réalisé.
OK. Et alors, parmi les instruments, est-ce qu'il y en a qui provoquent plus de douleurs que d'autres?
Alors, oui. Oui. Après, je pense qu'il faut aussi prendre du recul aussi sur les études qui sont faites. Et il n'y a pas de... Dans les études, en fait, on prend les instrumentistes et on regarde le nombre de pathologies. Et on ne prend pas en compte la taille des échantillons de chaque instrument. Et donc, ce qui ressort dans les études, c'est que c'est plus souvent chez les violonistes et les pianistes qu'il y a des pathologies. Mais il y a aussi plus de violonistes et plus de pianistes. Et en fait, c'est un peu les lacunes que je vois sur les études qui ont été faites. C'est qu'en fait, il n'y a pas de standardisation sur les populations. Et en fait, je n'ai jamais fait les calculs, mais je pense que si on fait les ratios, je ne suis pas sûre qu'il y en ait plus. Et je pense que s'il y en avait plus, ça ne serait peut-être pas dans ce sens-là. Et ça, je ne sais pas.
Est-ce que dans ces études, il est tenu compte des durées de pratique, par exemple, ou...
Alors, pas toutes,
parce qu'entre quelqu'un qui va jouer quelques heures par semaine et quelqu'un qui va jouer beaucoup d'heures par jour, tous les jours, il y a certainement un différentiel aussi.
En général, les études qui sont menées, c'est au sein d'un orchestre, au sein d'un établissement où tous les musiciens ont à peu près le même statut. C'est l'orchestre philharmonique de je ne sais pas quelle ville d'Angleterre ou des États-Unis. Donc, on peut considérer que le niveau de pratique, en tout cas, est corrélé à un répertoire. On sait bien que dans une œuvre symphonique aussi, le violoniste jouera toujours plus que le trompettiste. C'est la musique qui veut ça, mais c'est la réalité du métier aussi. Donc, c'est vrai que c'est ce qui est assez complexe pour le musicien, c'est que la réalité quotidienne varie énormément d'un individu à l'autre, d'un instrument à l'autre, et qu'à vouloir tout standardiser, on n'arrive pas forcément à une meilleure compréhension de la réalité non plus.
Et alors, si on oublie les études et qu'on parle aux ergothérapeutes, quels sont les instruments qui sont les plus susceptibles de créer ou d'amener des pathologies?
Alors du coup, je vais retomber sur la question d'avant. Effectivement, au cabinet, on voit quand même plus d'instruments à cordes. Et après, je reste aussi interrogative sur ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est qu'il y en a plus ou est-ce que c'est que les instruments à cordes consultent plus? Je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne dis pas c'est ça ou c'est ça.
Mais... On a tendance à penser, ou c'est peut-être l'imaginaire collectif, qu'un instrument où on serait dans une position plus asymétrique ou un instrument qui serait plus lourd causerait plus de douleur. Est-ce que c'est le cas?
Sur le côté dissymétrique, oui. Moi, je suis assez convaincue que c'est plus difficile de gérer son corps quand il y a des mouvements qui sont opposés entre les deux mains et quand c'est déporté par rapport à l'axe du corps. Et c'est ce qu'on retrouve dans les études et c'est ce que je retrouve par expérience.
Donc, si on illustre, ça pourrait être le violoniste qui a le bras gauche levé et le bras droit en mouvement.
C'est ça.
Ou la flûte traversière qui a tout le corps basculé vers le côté droit.
Exactement. Après, je pense aussi qu'il y a plein de symptômes qu'on n'associe pas forcément directement à l'instrument, et notamment dans les instruments avant, tout ce qui va être lié au système digestif ou au système vraiment plus bas, plus urinaire ou génital, qui est rarement rattaché à la pratique instrumentale. alors qu'on sait que il y a des liens qui sont très étroits entre la pratique de l'instrument et tout le système de tout ce qui se passe dans le ventre, en fait.
Oui, si parce que toute cette partie abdominale est sollicitée quand on souffle.
Exactement.
Quand on soutient.
Sauf qu'il y a tellement de mots, plus de mots MAUX, qui sont liés à l'imaginaire aussi du ventre, de la digestion, de l'alimentation, que des fois on ne fait pas forcément le lien avec l'instrument, alors qu'il devrait être fait ou qu'il pourrait être fait.
Et c'est là aussi où, en tant qu'ergothérapeute, on va vraiment venir interroger tous les paramètres de la personne, ses habitudes de vie, est-ce qu'elle fait une activité physique autre, est-ce qu'elle a un bon rythme de sommeil, d'alimentation, parce que c'est autant de paramètres qui interfèrent avec la pratique musicale et qui peuvent nous donner des clés de compréhension aussi sur ce qui se passe si jamais il y a un problème ou une gêne.
Et sur les instruments, justement, qui vont causer plus ou moins de douleur, est-ce qu'il y a un facteur qui est prédominant? Par exemple, je ne sais pas, un instrument qui serait lourd, est-ce que c'est plus délicat à gérer qu'un instrument qui serait léger, ou une posture debout, statique, ou plus en mouvement, une indépendance des mains? Qu'est-ce qui peut créer le...
Moi, je dirais, alors je vais faire un peu une réponse de Normande, mais ça va dépendre de la personne, c'est-à-dire que...
Merci, Isor.
Voilà. Un même instrument n'aura pas les mêmes répercussions si la personne pratique une activité physique régulière, donc qu'elle est musclée, qu'elle a un bon tonus, en fonction de la taille de ses mains. Il y a un facteur, pour le coup, je trouve, qui est vraiment commun, c'est le stress et la force physique qu'on met dans le geste. Donc, on ne peut pas dire qu'un instrument plus lourd causera plus de dommages chez un musicien qui joue de manière très fluide et très légère, plutôt qu'un instrument très léger, mais chez une personne qui joue avec une force de préhension excessive. Enfin, en tout cas, moi, c'est un petit peu l'analyse que j'en fais. C'est une histoire vraiment d'équilibre entre le corps et l'instrument.
Oui, j'allais dire, il y a vraiment cette notion d'équilibre, finalement, ou de compensation entre un mouvement qui serait répété et puis une activité qui compenserait dans l'autre sens.
Après, à condition égale, on sait quand même qu'un instrument va avoir une contrainte minimale qui peut varier quand même d'un instrument à l'autre. Et on sait qu'un instrument qui va être déporté sur le côté, comme le basson, par exemple, sera plus contraignant qu'une flûte à bec qui va être très centrée et très symétrique. Ça, quand même, ça n'enlève pas évidemment tout ce que Isor vient de dire, et c'est évidemment à prendre en compte. Mais malgré tout, si on se base vraiment sur l'instrument, on sait qu'il y en a qui sont plus difficiles à supporter pour le corps humain que d'autres.
Et alors, quand on apprend l'instrument ou qu'on pratique son instrument, qu'est-ce qu'on peut faire pour se renseigner ou se mettre dans les conditions qui feront qu'on ne développe pas ou qu'on développe moins ou qu'on évite ces douleurs?
Je pense que connaître déjà son corps, déjà savoir que derrière un instrument et la difficulté de l'instrument, il y a un corps humain. Ça paraît assez basique de dire ça, mais en fait, dans les études et dans les premières années, on n'apprend pas vraiment à connaître son corps. Surtout qu'en plus, si on part d'un cursus relativement classique d'un enfant qui apprend, il va avoir un corps qui va se modifier du tout au tout en quelques années, souvent rapidement, souvent difficilement. Et finalement, le fait que l'enfant puisse connaître ce que c'est que son corps et savoir que son corps, que c'est grâce à son corps qu'il peut jouer, ne serait-ce que juste voilà, cette connaissance du corps me semble indispensable à quelconque prévention ou quelconque appréhension de la santé.
Dans connaissance, il y a l'aspect théorique, je dirais avoir des notions de base d'anatomie et de quel élément du corps est engagé dans le jeu de l'instrument. Et il y a la connaissance plus du vécu, de l'expérience, et donc c'est pratiquer des activités aussi qui vont permettre de ressentir son corps, de bouger différemment. Alors il y a le sport, mais il y a aussi d'autres, enfin ça peut être le yoga, ça peut être toutes les techniques somatiques, Alexander Feldenkrais, des arts martiaux qui vont permettre d'affiner le ressenti qu'on a de son corps, de se l'approprier. Et donc, une fois qu'on a l'instrument qui est un élément étranger, mais qu'on doit faire sien pour jouer la musique comme on veut, bah, ça permet voilà, d'avoir des leviers de compréhension et d'action par rapport à ça.
Mmh. C'est vrai que l'apprentissage du lien entre l'instrument et le corps est souvent, trop souvent, je pense, négligé.
Ah oui, carrément.
La technique instrumentale est déjà tellement difficile à maîtriser, et ça, quel que soit l'instrument, que peut pas non plus blâmer et on peut pas se dire que c'est pas bien ce qu'on fait. C'est déjà tellement complexe d'apprendre un instrument de musique et ça demande tellement d'engagement pour un enfant. Je vois un enfant qui fait pas de musique, qui fait une activité sportive, il va faire son activité sportive, toute la semaine il va l'attendre et il va retourner à son cours de sport. La musique, il faut que tous les jours il travaille, il faut qu'il y ait une certaine discipline, une certaine exigence aussi de l'apprentissage qui est déjà énorme. Donc c'est caser, apprendre son corps au milieu, c'est indispensable et je le promeux évidemment. Mais je me rends compte aussi que dans un quotidien de semaines chargées et de journées qui ne sont pas rallonges, c'est très complexe à introduire.
Alors, je vous propose qu'on parte sur peut-être une deuxième partie pour le podcast. J'avais envie de parler de tous ces on-dit ou de cette image et de commencer par notamment le mythe de la main du musicien. D'ailleurs, vous êtes toutes les deux spécialisées sur la main du musicien. Et ce que je me disais, c'est que on sacralise cette main, hein, on assure ses mains, on a très peur qu'il arrive quelque chose à ses mains quand on est musicien, ce qui est quand même très normal. En revanche, j'ai l'impression que lorsqu'on a des douleurs, elles sont pas spécialement ou pas forcément ou pas toujours aux mains. Elles sont plutôt plus haut ou ailleurs dans le corps, mais pas aux mains. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est vrai. Alors, on peut retrouver quelques pathologies au niveau de la main et notamment des pouces. Mais c'est vrai que les douleurs se manifestent généralement au niveau du cou, des épaules, du dos. Alors là, on a des études aussi en fonction des instruments qui révèlent plutôt telle ou telle zone, mais c'est globalement le dos quand même qui ressort comme étant la zone la plus atteinte. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça nous rappelle que la main ne vient pas de nulle part, que justement, elle se rattache à toute notre personne, tout notre corps, d'où l'importance des notions un petit peu de connaissance dont on a parlé précédemment au cours de l'apprentissage musical. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Justement, interroger notre geste, notre fonctionnement. Si la douleur vient de là, c'est qu'elle nous dit quelque chose de notre pratique, et peut-être la pratique purement musicale, mais aussi de notre mode de vie. Bien sûr, ça peut être la posture, mais ça peut être est-ce que j'ai fait assez de sport ? Est-ce que j'ai bougé dans d'autres directions ? Comment je me suis tenue au bureau ? Comment j'ai fait ma cuisine ? Ça invite en tout cas à interroger l'usage ou l'utilisation qu'on a de notre corps au quotidien.
Après, il est vrai que sans main, c'est compliqué de faire de la musique.
C'est vraiment la main, c'est presque l'interface en fait entre
c'est
le.
Complètement ça. Ça. Et on le retrouve aussi au niveau des lèvres chez les instruments avant. Mais c'est vrai que cette main, elle se retrouve dans tous les instruments. On avait cherché, il y a un seul instrument où on n'utilise pas les mains de manière très directe parce qu'il n'y a pas de contact, mais on utilise déjà les mains pour faire varier les sons. Donc en fait, c'est vrai que c'est vraiment le point commun.
Et alors, quel est cet instrument ? Parce que là, je suis très intriguée.
J'ai peur de dire une bêtise.
Le thérémine, non ?
Voilà, c'est ça.
C'est le thérémine.
J'allais dire térébenthine, mais...
c'est le thérémine.
Et il y a déjà besoin des mains.
Et effectivement. Alors, c'est un instrument très particulier, mais je pense que je mettrai un lien dans l'épisode du podcast pour le voir.
Oui,
parce qu'il faut le voir pour le croire.
Ouais, c'est ça.
Après, la main, ça reste quand même une spécificité de l'activité humaine. C'est-à-dire, on est concentré sur la musique. Mais en fait, dès qu'on fait quelque chose, globalement, ça passe par la main.
Oui. Et ça vient finaliser souvent un geste. Et donc, ça vient un peu... C'est vraiment le point d'intersection entre nous et notre environnement, la main. Et donc, je suis évidemment convaincue que souvent, la pathologie de la main vient d'ailleurs. Mais c'est souvent le point d'entrée de la pathologie. En tout cas, le point où on aborde les pathologies du musicien par la main. Et c'est-à-dire que si on enlève cet élément de la main, les pathologies, on les comprend moins, en fait. Donc, on a quand même besoin de cette main et de cette interface pour inscrire la pathologie à l'intérieur du corps humain. Mais ça reste quand même cette interface entre le corps et l'instrument qui est indispensable. Mais effectivement, souvent, quand je mène une rééducation pour un symptôme, une symptomatologie de la main, quand j'arrive, ce que je dis souvent, c'est quand j'arrive à la main, c'est que la pathologie est déjà terminée et que la prise en charge va s'arrêter. Donc effectivement, il y a tout un travail ailleurs, mais qui se cristallise autour de la main.
Et pour compléter ce que dit Céline, la main, c'est aussi ce que le musicien voit. On ne voit pas son dos quand on joue. C'est ce que le musicien voit et c'est aussi au niveau cérébral, un organe où il y a énormément de capteurs sensoriels qui vont en fait nous renseigner sur comment on sent notre corps. Donc c'est pour ça que la main, oui, c'est vraiment une porte d'entrée parce que c'est là où on a des sensations beaucoup plus fines qu'au niveau du dos. Et souvent, enfin c'est ce que tu disais Claire, on a mal ailleurs, mais on n'a que mal. C'est-à-dire on prend conscience d'une partie de notre corps par la douleur. Et c'est là où c'est peut-être un petit peu tard, en fait.
Oui. Et quand on intervient ailleurs, par exemple, si on fait quelques étirements avant de jouer, automatiquement, notre main se détend et ça se traduit tout de suite dans notre geste musical.
Et alors, faire un geste, un mouvement, ça, de manière consciente, ça provoque une activation un petit peu musculaire, ça réveille le muscle. Et donc, au niveau de la conscience, on a une acuité plus marquée de cette zone corporelle. On y est plus réceptif et la commande motrice qu'on va vouloir donner pour réaliser tel ou tel geste va, elle aussi, être plus effective.
Et c'est le principe même d'un échauffement. C'est-à-dire, on réveille le corps, on réveille tout ce qui se passe et chez un musicien, de chauffer sa main et d'amener son corps à justement chauffer les muscles de la main aussi, semble tout à fait pertinent dans une pratique instrumentale.
Et ce qui se dégage aussi, j'ai l'impression, c'est la globalité et puis aussi le geste, donc le fait de le mouvement. C'est ça, plutôt que la staticité, ça se dit, le
la
fait
statique.
De rester statique plutôt que la statique, puisqu'on est dans un épisode quand même qui s'appelle « J'ai comme geste ». Alors, parlons du geste. C'est vrai qu'on c'est aussi un peu un mythe, hein, le geste du musicien, le geste de l'artisan, le geste de l'artiste tout court.
Alors, on utilise parfois gestes et mouvements de manière un petit peu interchangeable. Pour moi, derrière le geste, il y a une intention. Alors que le mouvement peut être automatique, non conscientisé. Voilà, on peut faire des mouvements, comme on peut faire un peu des échauffements, justement. On peut se faire chacun une petite routine d'étirement ou d'échauffement, mais sans être forcément bien conscient de ce qu'on fait. Alors que dans le geste, et notamment le geste musical, bon, là on parle davantage de ce qui est écrit sur la partition et donc, ce dans quoi on va essayer de mettre de l'émotion, ou en tout cas une intention, notre personnalité. Là, ça me semble en effet intéressant de se dire aussi dans le geste physique, le mouvement du doigt ou du bras qui se lève, il peut y avoir une intention, il peut y avoir une conscience, et on peut vraiment choisir de comment le réaliser. Et donc comment équilibrer les forces qui sont en jeu. Et que ça se traduit aussi dans la musique. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter. Alors, c'est un côté un petit peu mystérieux, mais de se dire ce qu'on ressent de notre corps s'entend. En soi, on va pas changer une articulation, on va pas changer la flûte à bec, on n'a pas un panel de nuances absolument dingue. Mais le fait de penser une note comme ceci, comme cela, et donc soi-même de se mettre corporellement en disposition d'être plus doux ou plus tonique, et ben ça s'entend. Donc, il y a vraiment aussi une perméabilité entre la manière dont on vit son corps et ce qu'on va avoir en résultat musical.
Et alors, un autre grand, on dit, c'est l'apprentissage dans la douleur. Alors, il faut travailler jusqu'à avoir mal pour être sûr que c'est bien rentré dans ton corps. Qu'est-ce que ça vous fait sourire?
La douleur et la musique. Je vais répondre en complétant peut-être la réponse d'Isor à la question précédente entre le statique et le dynamique. Et le lien avec le geste, on entend souvent de plus en plus que le musicien, c'est comme un sportif. Ou si on prend vraiment l'aspect très musculaire et articulaire, pourquoi pas? Je pense qu'on pourrait atteindre des similitudes en termes de recrutement musculaire. Mais la différence, c'est que le musicien, il le fait tout en étant très statique. C'est-à-dire soit debout, à pas bouger, soit assis. Et c'est-à-dire et c'est à la différence du sportif qui va au contraire plutôt mobiliser l'ensemble de son corps et se déplacer réellement. Je veux dire, déplacer ses appuis avec ses pieds, tout simplement. Et finalement, alors ça, on pourrait en débattre aussi, mais chez les musiciens, on a aussi un aspect qui rejoint ce que disait Isor sur l'intention gestuelle, de donner vraiment artistique. C'est-à-dire qu'un musicien, il va jouer non pas pour exécuter le geste le plus rapidement possible ou pour être le plus rapide à la course, mais dans un but de jouer un morceau qui a été écrit par quelqu'un d'autre, qui va essayer de retranscrire et de faire passer un message. Et ça, à mon avis, c'est vraiment une différence fondamentale entre les musiciens et les sportifs. Et j'aurais plus envie de rapprocher le geste musical à un artisan ou à quelqu'un qui va fabriquer un instrument de musique ou quelqu'un qui va vraiment faire son pain au quotidien plutôt qu'à un sportif parce qu'il a une intention dans son geste qui est proche de l'artiste. Et quand je vois cet atelier de flûte à bec, c'est vraiment une pratique artistique. Au-delà de l'artisanat, c'est véritablement un geste artistique en fait, qui est fait en finesse et en même temps qui a besoin d'une statique et d'une dynamique. Donc moi, je le perçois presque vraiment plus proche de ça que du sportif qui va courir ou nager.
Et pour revenir sur ta question par rapport à la douleur, pour moi, il y a plusieurs types de douleurs. D'abord, faut se rappeler ce que c'est en termes de physiologie. La douleur, c'est un message d'alerte, d'alarme, comme quoi on approche des limites de ce qui est supportable pour les structures anatomiques. Donc, si la douleur se manifeste de manière très ponctuelle, voilà, c'est juste un signal de dire bah, là, c'est le moment de s'arrêter parce qu'on n'est pas loin de la limite, à distinguer d'une douleur qui s'installe de manière chronique, quotidienne, qui peut se manifester quand on joue, mais qui peut aussi se manifester après le jeu, dans d'autres activités. Donc la douleur, il ne faut pas forcément l'éviter non plus, vouloir absolument la fuir, parce que le travail musculaire y conduit souvent. Le fait d'arriver à la douleur, en fait, c'est le signe qu'on change aussi des choses dans nos structures anatomiques, et c'est ce qu'on cherche à faire par le travail. Voilà. Mais simplement, il faut se souvenir que c'est un message qui nous dit qu'il faut s'arrêter, que c'est le moment de prendre une pause et qu'il faut s'en inquiéter vraiment quand elle s'installe de manière durable.
Mmh. Ne pas continuer à répéter.
Voilà, il faut distinguer la douleur, je dirais, d'épuisement des ressources ou de surconsommation temporaire des ressources et la douleur qui s'installe et qui dit plutôt bah, là, par exemple, il faut changer la posture ou là, il faut changer la manière de faire, en tout cas.
Qui se transforme en pathologie,
et
en fait.
Et qui peut, ça, voilà, qui... et derrière se transformer en pathologie.
OK. Isor, j'avais aussi une question peut-être qui te concerne davantage, parce que tu t'intéresses particulièrement au lien entre l'évolution de la facture instrumentale et l'évolution des mots des musiciens. Alors, oui. Qu'est-ce que tu peux
Alors,
nous apporter
c'est,
là-dessus
c'est tout un projet de recherche dont Céline est aussi prenante, et même qui a eu l'initiative, je dirais, l'idée de ce projet pendant un de mes stages. Moi, je me suis... Voilà, je me suis toujours intéressée à l'organologie. J'ai aussi une âme de chercheuse à ma manière. Donc, je me suis toujours intéressée à l'évolution des instruments et aussi de constater dans mon quotidien que quand je passe d'une flûte renaissance à une flûte baroque ou d'une dulciane à un basson plus tardif, baroque, classique, ça suscite des changements dans ma manière de jouer parce que les proportions de l'instrument ne sont pas les mêmes, le poids n'est pas le même, le répertoire n'est pas le même. Et je constate que ça m'est plus difficile de passer d'un instrument à un autre dans un certain sens, plus que dans un autre, ou que j'ai moins de résistance, ou que ça me demande plus de préparation, voilà, en fonction des programmes. Et en rencontrant Céline, donc c'est vrai qu'on a eu cette idée de lancer un peu ce projet fou, d'explorer les différentes familles instrumentales qui sont pratiquées en Europe, pour essayer de voir s'il y avait un lien entre l'évolution de la facture et les mots des musiciens. Est-ce que l'évolution s'est faite avec ce souci de diminuer les mots ou pas? Est-ce qu'il y a une corrélation qui peut être établie? Alors, on est encore au tout début, enfin vraiment aux prémices, hein, donc on n'a aucun résultat à vous livrer. Mais en tout cas, c'est une quête qui me paraît très intéressante.
Et est-ce qu'on a des traces des mots des musiciens du passé?
Alors, j'ai lu récemment dans une méthode pour flageolet, que justement, le flageolet était un instrument qui fatiguait beaucoup la poitrine. Bon, alors, ça ne fait pas l'unanimité, puisque d'autres sources disent au contraire que c'est un instrument très facile. Dans une méthode de Basson, j'avais lu qu'il était fortement déconseillé de jouer moins de 2 heures après la dernière prise du repas, parce que sinon, ça pouvait causer justement des désagréments au niveau digestif. Alors, à ma connaissance, on n'a pas de mots vraiment étiquetés comme nous, on le fait aujourd'hui, puisqu'il n'y avait tout simplement pas la nomenclature ou pas la grille d'analyse.
Oui, c'était certainement une autre manière de voir les choses
voilà.
aussi.
Mais oui, il y a des témoignages qui disent que c'est fatigant, que la vie de musicien aussi est fatigante. Hein, c'est beaucoup de déplacements.
Ah oui, il y a ce côté-là aussi.
Il y a ce côté-là aussi à ne pas négliger. Ouais.
Et si on voulait donner un exemple, quelle serait une évolution majeure qui aurait eu une conséquence importante sur la santé des musiciens?
Alors, si on reste dans le domaine des instruments à vent, moi, je dirais que c'est quand même l'adjonction de clés. Alors, il y a eu des clés sur les premiers bassons, mais pas de manière aussi importante que sur les hautbois modernes, les clarinettes ou les bassons actuels qui ont, je crois que le basson, on est à 37 ou 39 clés. Enfin, c'est assez démentiel. Donc, on peut se dire, bah oui, les clés, ça facilite à la fois le jeu parce que ça permet d'avoir un écartement des doigts et une pression digitale relativement homogène. Sauf que ces clés, elles ont un poids. Et que, oui, peut-être, on gagne en vélocité, mais en termes de résistance, là, par contre, le corps est soumis à une beaucoup plus rude épreuve que sans.
On suivra avec attention ce projet.
Moi, je pense que j'aurais peut-être parlé de la taille plutôt. Entre la Dulciane et le basson moderne, la taille est tellement différente qu'on a même été obligé de le déporter sur le côté et donc créer une asymétrie qui est plus marquée qu'à la Dulciane.
Alors, je t'ai pas sorti la Dulciane carte basse, c'est
oui,
pour ça.
mais peut-être, mais je pense que la taille aussi joue...
Mais en tout cas, le modèle standard, on peut dire, oui.
Et ça rejoint la taille et le poids. Enfin, je veux dire, plus c'est grand, oui, plus il y a de matière, ouais. Plus c'est lourd.
Plus c'est lourd,
et en plus, on a rajouté des clés, donc c'est encore pire.
Et bien, on attend la suite avec impatience. Et si on parlait un peu de flûte à bec? Alors, la flûte à bec est connue comme un instrument physiologique, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, en tout cas qui a très peu de contraintes pour les flûtistes. C'est le cas.
L'instrument lui-même, oui, il est tout à fait symétrique, il est relativement léger. Si on s'attache à la flûte alto, on peut aller chercher aussi les ténors, les flûtes basses, bon, qui ont aussi des clés et qui, forcément, comme disait Céline, plus la taille est grande, plus c'est lourd. Mais globalement, c'est un instrument tout à fait équilibré.
Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aussi beaucoup de personnes viennent à la flûte à bec depuis un autre instrument qu'elles ne peuvent plus pratiquer ou qu'elles ont du mal à pratiquer. Comment est-ce qu'on compose avec les douleurs de la vie, donc celles qui ne sont pas liées à la pratique instrumentale, mais tout simplement à la vie? Comment on fait? Comment on prend ça en compte?
Alors moi, je dirais qu'un principe qui me semble marcher à peu près à tous les coups, c'est celui de l'économie minimale. C'est-à-dire toujours rechercher le moindre effort, pour être un peu flemmard. Alors c'est pour la flûte à bec, mais pour tous les instruments en fait. Déjà, comme ce qu'on disait un petit peu plus tôt, connaître son corps, être à l'écoute de son corps, c'est-à-dire être vigilant aux signaux qu'il nous envoie en termes de gêne, en termes d'inconfort, en termes de douleur, de fatigue... Et toujours se demander quel est l'effort minimal dont j'ai besoin pour que ça marche bien. Et souvent, on se rend compte qu'on est toujours dans un excès de force parce que on est concentré, on a envie de bien faire. Et puis, mais on met trop. Très souvent, on met trop. Et pour jouer de la flûte à bec, comme pour éplucher ses patates, en fait. On est souvent dans un excès de force.
Fait du zèle.
Voilà, un peu trop de zèle.
Oui, c'est ça. En fait, chaque instrument impose... des gestes et impose une obligation du corps. Et il faut rechercher ça, mais juste ça.
La juste dose.
La juste contrainte de l'instrument. Mais pour le rechercher, il faut le savoir. D'où l'intérêt de ce projet de recherche, c'est de pouvoir dire aussi, sur la flûte, ou sur le hautbois, ou sur le basson, il y a ces contraintes-là dont on ne peut pas se soustraire. Du coup, il faut aller chercher juste ça. Et pas plus.
Et alors, c'est le moment idéal pour répondre aux questions qui ont été envoyées par les auditeurs et les auditrices de Bombec. Il y a Isabelle qui a envoyé la question suivante. Comment maintenir au mieux les flûtes les plus grandes et les plus lourdes pour éviter la tendinite du coude? Et elle précise, c'est compliqué d'être à la fois ferme pour le jeu dans les doigts tout en étant détendue dans les bras et les épaules.
C'est une très bonne question, Isabelle. Alors, en fonction de la taille de la flûte basse, déjà, il y a la taille de la flûte à prendre en compte et il y a la position. Si on est debout, si on est assis, ce n'est pas la même chose. Donc déjà, chaque personne peut voir s'il y a une position dans laquelle elle est le plus à l'aise ou pas et essayer d'organiser son temps de jeu par rapport à ça. Il y a la question, si on est assis, de l'assise. Est-ce qu'on est sur un tabouret? Est-ce qu'on est sur une chaise? Est-ce que si je joue assis ma flûte basse, je ne peux pas la poser sur un petit tabouret ou une pile de livres qui laisse le pavillon libre pour l'air, que l'air puisse circuler, mais qui va néanmoins me délester du poids de la flûte. Après, il y a tout ce qu'on appelle, en termes d'ergo, les aides techniques, où on rentre dans la catégorie des harnais, des supports de pouce, par exemple. Alors là, il y a un petit tri à faire, parce qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées, notamment les tours de cou, les simples harnais qui font en fait porter le poids de l'instrument sur les cervicales. C'est une très très mauvaise idée, parce qu'on a l'impression de libérer la main, et c'est le cas, mais le cou, lui, a beaucoup plus de travail. Donc on va préférer des systèmes qui font porter le poids plutôt sur les épaules. Alors, si on a un support de pouce, le mieux, c'est d'en avoir un amovible. Mais ce qu'il y a encore vraiment de préférable, c'est de travailler sa position de main, sa
Alors
position
justement, de pouce. Il y a une deuxième question qui rejoint un petit peu ce que tu es en train de nous expliquer. C'est Nathalie qui joue de la ténor et elle explique qu'elle a du mal à positionner justement son pouce droit sous la flûte et qu'elle a l'impression de faiblir très vite en jouant de la ténor. Et elle demande où est-ce qu'il faut mettre le pouce droit sous la flûte et est-ce qu'il faut utiliser un support pouce et à ce moment-là, comment?
Alors, la flûte ténor, c'est vrai que c'est pas la plus grande flûte, mais c'est celle où les contraintes sont relativement le plus marquées en termes d'écartement de doigts. Là, il faut interroger d'abord la position de la partition, qui va conditionner notre regard, la manière dont on dispose notre tête, et donc la tête étant l'élément du corps le plus lourd, ça conditionne aussi tout notre aplomb physique et donc la hauteur aussi à laquelle on va porter les bras. Donc moi, ce que j'aime bien proposer à mes élèves, c'est déjà de se mettre dans une bonne position de lecture de partition. Et une fois qu'on est bien installé sans l'instrument, d'amener l'instrument à soi et d'essayer de trouver un point d'équilibre entre la lèvre et le pouce droit et le petit doigt, éventuellement de la main droite, tout en restant dans une bonne disposition de lecture. Et on peut jouer donc sur la hauteur du pupitre, notamment, et on peut jouer beaucoup sur la hauteur du bras droit de la main, en laissant le poids le plus possible sur la lèvre.
Alors moi, je vais pouvoir donner une réponse deux en un, pour Isabelle aussi, et qui va conditionner le positionnement du pouce. Moi, j'adore cette tendinite au coude. Elle est géniale, parce qu'elle fait vraiment tout ce qu'on vient de dire sur la main, sur le corps, sur la globalité. Ça peut se résumer dans une tendinite, c'est celle-là. Et on sait que la position de la main et du bras en entier va pouvoir déclencher, jusqu'à l'omoplate, va pouvoir déclencher cette fameuse tendinite au coude. Et donc, probablement, je ne connais pas Isabelle, mais très probablement, qu'elle tient sa flûte avec les coudes très loin d'elle, avec les coudes qui sont très très en dehors, et qu'elle est obligée de ramener sa main vraiment vers son instrument. Et donc moi, j'inviterais Isabelle d'essayer de jouer avec les coudes presque collés à elle, en tout cas détendus, mais vraiment le plus rapproché d'elle possible. Et si on rapproche son coude, je passe à la deuxième question. Forcément, le pouce va se positionner beaucoup plus naturellement. Plus on va avoir les coudes écartés, plus on va travailler au niveau des épaules et des omoplates, donc on va fatiguer plus vite, et plus le pouce va devoir gérer tout cet écart du bras en entier. Et donc, c'est lui qui va porter aussi la charge, et avec le poignet et pouce. Et donc, bon, ça pourrait être intéressant d'essayer de jouer juste en relâchant les bras, de telle sorte à ce que les coudes soient presque collés à soi, et le pouce va se positionner beaucoup plus naturellement. Beaucoup plus en détente, en tout cas.
Mmh. En les laissant tomber, en fait, tout simplement.
Exactement.
Hein, les coudes.
Oui, il y a une force qu'on oublie très souvent, qui est la gravité. Et on peut souvent lui laisser faire une partie du travail dont on se charge.
Alors, il y a une autre question, qui est aussi d'Isabelle, qui m'avait envoyé deux questions, et qui demande quels seraient les meilleurs étirements pour le majeur et pour l'annulaire, afin de les rendre plus dynamiques sur la flûte. Alors, est-ce qu'on peut faire des étirements spécifiques sur ses doigts pour les rendre plus dynamiques?
Alors, c'est difficile de répondre sans voir la situation. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont... Enfin, s'il y a un manque de dynamisme, c'est... Moi, je traduis ça en manque de réactivité, donc peut-être par une lenteur ou un peu une crispation. Plutôt que des étirements, j'inviterais Isabelle à simplement essayer de diminuer sa tension musculaire, à donner l'intention d'avoir un doigt qui se pose uniquement sur la flûte. Ça, c'est aussi un élément dont je n'ai pas encore parlé, mais on ne tient pas la flûte avec les doigts. Moi, j'aime bien penser que quand les doigts sont sur la flûte, ils sont au repos. Donc, en fait, il n'y a pas besoin... Exercer une force quand le doigt est posé, ça revient à propulser la flûte vers le bas, vers le sol. Or, on n'a pas besoin de ça. En laissant faire uniquement la gravité, le doigt reste posé sur son trou et on a un doigt suffisamment souple au niveau de la peau et suffisamment large pour que le trou soit naturellement bouché. Donc, l'effort musculaire, si je puis dire, ou l'intention active, elle se fait sur l'élévation du doigt. Et quand on joue, c'est très très bref, c'est le temps d'un changement de note. Les doigts passent généralement beaucoup plus de temps posés sur la flûte qu'en l'air. Donc, pour avoir plus de mobilité et de vélocité, c'est simplement diminuer la tension qu'on met quand le doigt est posé. Et ça va donner à la commande plus de disponibilité et plus de réactivité.
Et quand on parlait de connaître son corps, ça passe... Je pense que ça va être aussi un élément de réponse pour Isabelle. On sait que le troisième et quatrième doigt, leur structure anatomique, fait qu'ils sont beaucoup moins indépendants. Parce que dans notre histoire d'être humain, on n'a pas besoin d'avoir une grande indépendance entre le majeur et l'annulaire, entre le troisième et quatrième. Et que finalement, on a deux mains, en fait, dans une seule main. On a une main de précision, qui va être plutôt les trois premiers doigts, pouce, index, majeur, et une main de force qui va nous servir, par exemple, à ouvrir une bouteille, qui va être plutôt de force. Et donc, ces deux mains, elles sont finalement, dans nos intentions gestuelles, assez différenciées. Et forcément, cette indépendance entre le troisième et le quatrième doigt, il est anatomiquement beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que si je lève indépendamment chacun de mes doigts, je vais avoir beaucoup plus de mal, malgré tous les entraînements et toute mon expérience de musicienne, à le faire. Et donc, on sait que l'anatomie de la main n'est pas faite pour avoir une vélocité très importante entre ces deux doigts. Donc, il ne faut pas non plus se culpabiliser parce que naturellement, la main ne va pas être faite pour ça.
Et il y a une inégalité entre les mouvements que peuvent faire chaque doigt.
Complètement. Et ça, c'est valable chez Isabelle, mais c'est valable chez Céline ou chez Isor ou chez n'importe qui. Donc ça, c'est hyper important aussi de maîtriser un tout petit peu l'anatomie. Je ne parle pas de rentrer dans les détails, mais de savoir ça, en fait. Et ben, déjà, on peut se dire, bon, ben, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler. Attention, Isabelle. Hein. Mais c'est normal de ne pas avoir une indépendance et une vélocité extrême sur ces fameux deux doigts un peu difficiles.
Mmh. Et on a encore une question que j'avais envie de vous poser, qui n'est plus cette fois sur la main, mais sur le souffle, puisqu'on est à la flûte à bec, on est des souffleurs. Et donc, c'est une question de Igor, qui est en recherche d'informations sur, donc là, je cite sa question, la poussée abdominale qui est nécessaire au chant et à la flûte. Alors, est-ce que c'est la même pour le chant et pour la flûte? Et est-ce qu'il y aurait une technique ou une image pour se représenter cette poussée abdominale? Alors, peut-être que le terme de poussée abdominale va être à redéfinir avant de passer à la suite, mais voilà, cette question est...
Alors, moi, je dirais que comme le corps du chanteur et du flûtiste est le même en termes d'éléments anatomiques, la technique, en général, va être la même. C'est-à-dire, il y a un grand muscle inspirateur chez tout le monde qui est le diaphragme, donc qui s'abaisse quand on inspire, ce qui peut faire ressortir le ventre. Et il y a un grand ensemble de muscles expirateurs, toute la sangle abdominale, qui va rentrer, donc qu'on va contracter, qu'on va gainer, si on veut, au moment de l'expiration. Et à ces abdominaux vont s'associer tous les muscles du périnée. Donc, en soi, le mécanisme est le même, qu'on soit chanteur, flûtiste, saxophoniste, voilà, quel que soit, et même violoniste, c'est la même chose. En revanche, c'est le dosage et la souplesse qu'on va exiger de ces muscles, donc la finesse du contrôle moteur, qui ne va pas être la même. Pourquoi? Parce que la pression d'air n'est pas la même, n'est pas requise de la même manière. Et ne serait-ce qu'entre deux flûtes à bec, entre une soprano et une flûte basse, le canal d'air de l'instrument n'est pas le même, donc on va devoir moduler. Et j'en reviens encore une fois à l'anatomie, on est désolé, mais de pouvoir se représenter un tout petit peu les équilibres entre les jeux de force entre ces groupes de muscles et de savoir aussi quelle incidence ça a sur le son. Ça me paraît vraiment indispensable pour pouvoir bien maîtriser son instrument. Et pour juste compléter par rapport à la notion de poussée, on prend souvent en musique des images pour essayer de se représenter ce qui se passe dans notre corps et simplement aussi pour nous inspirer et nous encourager à faire ce qu'on veut. En termes purement biomécaniques, quand l'air sort, il y a une poussée plutôt vers le haut, c'est-à-dire on rentre les abdominaux qui repoussent les poumons vers le haut, en tout cas qui amènent les poumons à se refermer, donc à expirer l'air. Il faut être assez vigilant, à mon sens, à ne pas tomber dans l'idée d'une poussée abdominale qui se fasse vers le bas, auquel cas on scinde en fait le système respiratoire en deux. On risque de faire ça. Et on risque surtout d'exercer une surpression sur toute la sphère digestive et sur le périnée, avec des conséquences délétères dans d'autres domaines de la vie, et en plus contre-productif au niveau du jeu de la flûte.
Je trouve qu'il y a souvent une confusion entre ce qu'on appelle la colonne d'air, la poussée, la gestion du souffle et le centre de gravité. Souvent, dans la vie quotidienne, ils sont très souvent liés. Et c'est justement dans les pratiques instrumentales d'instruments à vent ou de chant qu'on va justement les dissocier. Et donc, quand il y a une expiration, j'aurais tendance effectivement à dire que ça ressort, donc ça remonte. Ça ne veut pas dire que le centre de gravité doit forcément remonter. Et c'est là où il peut y avoir aussi des tensions musculaires qui s'installent à différents endroits du corps. Mais qu'effectivement, que ça soit une expiration qui remonte, mais un centre de gravité qui s'abaisse, ça peut être très intéressant. Et donc, éventuellement, Igor peut essayer, quand il souffle, de plier légèrement ses genoux pour faire descendre son grand centre de gravité. Et de voir un petit peu ce que ça donne, d'essayer de le faire sans plier les genoux, en pliant les genoux, ou en essayant de descendre son centre de gravité. Et il va pouvoir expérimenter comme ça différentes sensations de gestion de souffle.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on aurait pu continuer pendant encore des heures.
Mais oui.
On va arriver au bout de notre temps pour le podcast. Alors, si les personnes ont des questions, où est-ce qu'on vous retrouve ?
Sur les réseaux sociaux.
Dites-nous tout.
Alors, moi, j'ai un site internet qui s'appelle La Muse Ergo, donc www.lamuseergo.com. Je suis principalement à Lyon, mais je me déplace beaucoup aussi à Paris. Voilà, je navigue un petit peu entre ces deux villes. Et Céline ?
Alors, moi, j'ai mon cabinet en Haute-Savoie, où je peux recevoir directement les gens qui veulent se déplacer. Après, je suis très facilement joignable, effectivement, par Internet. Donc, en général, si on tape « ergothérapeute des musiciens », on tombe à peu près sur moi. Donc, j'ai un site Internet et puis les réseaux sociaux habituels, Instagram.
Je mettrai les liens. Et est-ce que vous consultez éventuellement en ligne ?
De plus en plus. Moi, j'ai de plus en plus de demandes parce que souvent, les gens sont... ils ont personne, en fait, de spécialisé pour les musiciens. Et en fait, finalement, lors du bilan, on a une phase quand même d'examen clinique, mais finalement, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire en visu. Et moi, j'ai tout un petit rituel où finalement, ça se passe plutôt bien dans un bilan. Après, ça dépend des problématiques, évidemment, mais c'est tout à fait faisable.
Moi, j'aime bien le rapport humain. Donc, je préfère me déplacer si la personne est loin, ou en tout cas, j'invite toujours les personnes à me contacter, à essayer qu'on trouve un terrain de rencontre. À distance, c'est possible, mais dans le cadre d'un suivi qui a déjà commencé, ou en tout cas s'il y a déjà une rencontre physique, ça me semble important aussi de pouvoir prendre des informations sur l'instrument, sur le lieu de vie, sur la manière dont, enfin l'environnement tout simplement dans lequel la personne évolue.
Et donc on peut vous consulter si on a mal, mais on peut aussi vous consulter avant d'avoir mal, en prévention.
C'est même mieux. C'est même mieux avant.
Ouais. On peut aussi vous consulter pour des aménagements de posture, d'instruments,
d'environnement, du poste de travail, si on veut être sur une terminologie.
Dès l'instant qu'on veut engager une réflexion autour de son instrument et autour de son corps,
on peut vous consulter.
Il ne faut pas hésiter.
Merci beaucoup à tous
les deux.
Merci Claire.
Merci. Thank you.
Et voilà pour cette conversation autour du geste. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé cet échange absolument passionnant. Je pense que chacun de nous, chacune de nous, est un jour ou l'autre confronté à une douleur ou à des douleurs liées à la pratique de notre instrument, même avec nos douces flûtes. Et quand ça arrive, je crois qu'on se sent toujours particulièrement démuni. Alors de cet épisode, je retiens tout particulièrement l'idée de la main comme un point d'intersection entre nous et notre environnement, et l'attention toute particulière qu'on peut lui porter en sachant ça. L'échauffer, doser l'effort, l'intensité, mettre plus de conscience et plus d'intentionnalité dans nos mouvements, qu'ils soient musicaux ou autres d'ailleurs. J'espère que tout ceci va vous donner matière à réfléchir, à expérimenter, ou vous donnera peut-être envie d'explorer encore plus loin ce sujet du geste, pourquoi pas même de vous faire accompagner sur ce chemin. Vous trouverez comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, les liens vers les sites et les activités de Céline Buissou et Isor Ponvienne, que je vous invite vraiment à aller visiter. Je vous laisse avec cette phrase qui me semble parfaitement condenser notre échange, ce qu'on ressent de notre corps s'entend dans la musique. Encore mille merci, Céline et Isor, pour votre professionnalisme et votre bonne humeur. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs flutophiles, d'être fidèles au rendez-vous de Bon Bec. Si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant une note et ou un commentaire sur votre plateforme de podcast, en vous abonnant à la chaîne YouTube de Bon Bec. On ne le dira jamais assez, toutes ces petites actions comptent énormément pour la visibilité et pour le développement du podcast. Et un immense merci si vous l'avez déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner au mail de présentation que j'envoie chaque début du mois, ou encore vous inscrire à ma newsletter 3 minutes pour la flûte, qui vous donne un jeudi sur deux des infos, anecdotes et astuces sur la flûte à bec à lire en 3 minutes top chrono. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, vous pouvez parler de Bon Bec autour de vous et partager vos épisodes préférés, parce que les Bon Bec, c'est fait pour ça, pour être partagé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis Bon Bec et à très vite.